Il est 7h30. Et c'est le journal de Sébastien Logeni sur France Inter. Bonjour.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, des boissons sucrées accusées d'augmenter les risques de cancer. Même avec un petit verre de jus d'orange, les risques augmentent de 18%. Résultat d'une très vaste étude menée par des chercheurs français. Précision à suivre. Marc Vera veut rendre ses étoiles, les deux qui lui restent après la perte de sa troisième étoile en début d'année. Le grand chef accuse le guide Michelin d'incompétence. On l'entend. Dans ce journal également, la tension monte à nouveau au sein du clan Le Pen. Marion Maréchal et ses sorties incontrôlées agacent sa tante Marine. Une affaire digne du Da Vinci Code en Italie, l'affaire Orlandi, une jeune adolescente disparue il y a 36 ans au Vatican. Deux tombes vont être rouvertes aujourd'hui. Et puis pour terminer, le début des francopholies hier à La Rochelle avec des chanteurs français qui cherchent leur voix.
Dans un quart d'heure, nous recevons Emmanuelle Amar. Elle a lancé le débat et l'enquête sur les bébés nés sans bras. Quand boire trop sucré favorise le cancer.
Oui, c'est donc la conclusion d'une vaste étude publiée aujourd'hui par des chercheurs français de l'INSERM, de l'INRA, du CNAM, publiée dans le British Medical Journal. Des chercheurs qui ont constaté que boire un tiers seulement d'une canette de soda ou un petit verre de jus de fruits par jour était positivement associé au risque global de cancer et en particulier de cancer du sein. Les précisions de Daniel Messager.
Les consommations d'une centaine de boissons sucrées ont été suivies chez plus de 100 000 personnes. Ce sont les participants de la cohorte Nutrinet Santé et ce pendant 10 ans. La base de données est donc très fiable et les résultats inquiétants même avec une petite consommation quotidienne. Mathilde Touvier est directrice de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle.
Pour 100 millilitres, ce qui équivaut à un petit verre de boissons sucrées chaque jour, eh bien on avait une augmentation d'environ 18% de risque de cancer. Les cancers de manière générale et plus spécifiquement pour le cancer du sein. L'ensemble des boissons sucrées sont concernées, donc les sodas, les boissons sucrées artificielles, mais aussi les jus de fruits et même les jus de fruits à 100%. Les politiques de santé publique comme la taxe sur les boissons sucrées sont des politiques importantes qui peuvent aussi permettre d'améliorer les comportements de consommation et donc de prévenir les pathologies cardiométaboliques et aussi potentiellement le cancer.
Pour faire baisser ces consommations, il existe une taxe soda adoptée dans plusieurs pays. En France, elle varie selon le taux de sucre contenu dans la boisson. Elle est par exemple de 15 centimes pour un litre de coca. Aux États-Unis, dans la ville de Philadelphie, cette taxe, en 2 ans, a fait chuter la vente de boissons sucrées de 38%.
Daniel Messager, chef du service santé et société à France Inter. Santé encore avec les laboratoires Boiron qui font de la résistance après la décision de dérembourser totalement l'homéopathie en 2021. La directrice générale du laboratoire lyonnais sera reçue aujourd'hui par la ministre de la Santé Agnès Buzyn.
Lui ne boit pas trop de soda, non, il serait plutôt plante et bon fromage.
Marc Vera, grand nom de la gastronomie française, comme d'autres chefs avant lui. Marc Vera est en colère contre le guide Michelin depuis qu'on lui a retiré la troisième étoile de son restaurant, la Maison des Bois à Manigaud en Haute-Savoie. Le chef au célèbre chapeau noir veut se retirer du guide auquel il reproche, dit-il, une profonde incompétence et qu'il accuse d'avoir provoqué chez lui une dépression de plusieurs mois. On l'écoute.
J'en ai marre d'avoir cette pression perpétuelle sur les épaules. J'en ai marre. Et j'ai pas besoin d'eux en plus. Le Michelin devient une affaire commerciale. Hein. Est-ce qu'ils ont les compétences pour nous juger? Je leur en veux à mort. J'ai fait 6 mois de dépression. Ils ont pris ma santé en otage. Ils n'ont pas le droit à ça. Mais si au moins c'était justifié, ils comprennent rien, là. C'est pas Marc Vera. C'est toute la région qu'ils insultent. J'ai beaucoup de peine pour mes employés, pour mes collaborateurs, qui ont les larmes aux yeux. Moi, c'est pas grave. J'ai fini ma carrière. J'ai 70 ans. J'ai fini. Quand tu vois les gamins que j'ai, qu'on fait les plus grandes maisons de France, qui comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, chef. Alors, allez leur expliquer.
Le désarroi du chef Marc Vera avec Sarah Gillemand de France Bleu Pays de Savoie. Le Michelin, pour sa part, refuse de retirer son restaurant du guide. Une nouvelle affaire dans l'entourage de François de Rugy. Après l'article de Mediapart hier sur les dîners fastueux de l'ex-président de l'Assemblée nationale, le site d'investigation épingle maintenant sa directrice de cabinet, Nicole Klein, qui a bénéficié, alors qu'elle était préfète en région, d'un HLM à Paris pendant 12 ans sans l'occuper. Nicole Klein a annoncé hier soir sa démission à la demande demande, dit-elle au journal Ouest-France, de son ministre. Un rappel avec, sans surprise, Benjamin Griveaux, investi hier soir pour La République En Marche au municipal de Paris. Et puis en politique encore, la maison Le Pen à nouveau au bord de la crise de nerfs. La patronne du Rassemblement National est de plus en plus énervée par le comportement de sa nièce. Marine Le Pen veut voir rapidement Marion Maréchal officiellement pour mieux se coordonner. Il faut dire que depuis les élections européennes, Marion Maréchal multiplie les interviews, les rencontres avec la droite et ça lui réussit plutôt bien dans les sondages, ce qui a le don d'agacer sa tante Maxence Lambrecq.
Marine Le Pen adore les séries, mais ce feuilleton-là l'agace de plus en plus. Elle aimerait connaître les épisodes à l'avance et surtout la fin de l'histoire. Sa nièce va-t-elle revenir dans l'arène ? Marion Maréchal semble ne pas le savoir elle-même, mais elle fait tout pour que ce soit possible au cas où son entourage s'active et les sondages s'affolent. Le dernier en date, celui de Via Voice dans Libération, la donne largement devant sa tante dans le cœur des sympathisants de droite. Et c'est sans doute le déclic, analyse un cadre du RN. La raison qui la pousse à convoquer sa nièce pour mieux se coordonner. Elle n'a par exemple pas du tout apprécié d'apprendre par la presse son invitation finalement avortée à l'université d'été du MEDEF. Mais il n'y aura jamais aucune coordination, s'amuse un familier des Le Pen. Marion tient trop à sa liberté, elle n'a de compte à rendre à personne. Les proches de l'ancienne députée n'en pensent pas moins, mais ont reçu pour consigne de ne rien dire, de ne pas enrichir cet épisode déjà tendu. Toutes les deux, en tout cas, ne passeront cette fois pas leurs vacances ensemble à la Trinité, le port d'attache du clan Le Pen.
Maxence Lambrecq, il voulait dénoncer de façon spectaculaire le passage des migrants de l'Italie vers la France. C'était il y a un an, des membres du groupe d'extrême droite Génération Identitaire lançaient l'opération Defend Europe pour empêcher les exilés de passer via le col de l'Échelle. Trois militants seront jugés aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Gap.
7h37, le journal de Sébastien Logeni sur France Inter. Sébastien, la réforme des allocations logement a été reportée, mais elle continue d'inquiéter.
Le nouveau modèle de calcul des APL devait être appliqué au printemps, puis en septembre, mais ce n'est finalement qu'en 2020 qu'il entrera en vigueur. Un calcul à partir des revenus de l'année en cours et non plus ceux d'il y a deux ans, ce qui préoccupe beaucoup les organisations étudiantes, selon qui la réforme va désavantager les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Explication Claire Chaudière.
Parmi les publics qui risquent de voir leur situation se détériorer, alerte l'UNEF, les étudiants salariés nombreux et surtout les jeunes travailleurs tout juste sortis de leurs études qui jusqu'ici bénéficiaient pour la plupart d'une aide au logement significative puisque calculée sur une absence totale de revenus deux ans plus tôt. Mélanie Luce préside le premier syndicat étudiant.
Il y a une certaine hypocrisie quand on nous dit on va calculer en fonction de vos revenus de l'année. Affiché juste comme ça, beaucoup de personnes pourraient se dire ah mais donc c'est pas un problème. En réalité, ils savent très bien que ce sont les jeunes, les étudiants salariés qui sont les premiers concernés, qui vont perdre de l'argent.
Des projections que vient justement de réaliser Eddy Jacquemart de la Confédération Nationale du Logement et on commence à comprendre, dit-il, pourquoi le gouvernement estime que cette réforme permettra jusqu'à 1,2 milliard d'économies en année pleine.
Si je prends l'exemple d'un jeune qui prend un studio à 684 euros par mois, il gagne 1300 euros, ben il aura zéro d'APL. Par contre, s'il n'a pas de revenus, puisque c'était le cas de figure qui s'applique jusqu'à aujourd'hui, il va avoir 206 euros d'APL. C'est un peu sa prime à l'installation et c'est pas du luxe.
Bonus légitime, effectivement, au regard des difficultés liées à l'entrée dans la vie active, martèle associations et syndicats qui demandent donc au gouvernement un coup de pouce dans le nouveau système en direction de cette classe d'âge.
Claire Chaudière du service économique de France Inter.
Direction le Vatican pour une affaire qui passionne les Italiens depuis plus de 30 ans.
Le mystère Emanuela Orlandi, du nom d'une jeune adolescente disparue il y a 36 ans, sans laisser de traces. Elle était la fille d'un employé du Vatican et sa famille vient d'obtenir la possibilité de fouiller deux tombes à l'intérieur d'un cimetière du plus petit état du monde. Les précisions de notre correspondante à Rome, Mathilde Imberti.
Les hypothèses les plus sombres ont été formulées sur la disparition d'Emanuela Orlandi. Est-ce la main de la criminalité organisée romaine, du terrorisme international ? L'église complice cache-t-elle la vérité ? Ce 22 juin 1983, l'adolescente de 16 ans termine son cours de musique à Rome. Elle n'a que le Tibre à traverser pour rejoindre le Vatican où son père est employé et où elle vit en famille. Elle s'évanouit dans la nature. 36 ans plus tard, dans l'enceinte de ce Vatican, deux tombes d'un cimetière allemand vont être fouillées car un mystérieux message envoyé à l'avocat de la famille indique cet endroit précis. Pietro Orlandi, le frère d'Emanuela, parle d'un revirement positif après des années de non-collaboration.
Six mois après la disparition d'Emanuela, Jean-Paul II est venu chez nous. Il nous a dit « c'est un cas de terrorisme international ». Je dis que si eux savaient déjà la vérité, cette phrase a constitué la première fausse piste de cette histoire. Jean-Paul II a mis en balance la vérité et l'image de l'Église. Il a fait un choix et a permis au silence, à l'omerta, de régner sur cette affaire.
Dans les prochaines heures, l'expert en charge des analyses espère pouvoir déjà dater grossièrement les ossements retrouvés dans les deux tombes. À Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
On termine, Sébastien, en musique avec l'ouverture des Francofolies hier soir à La Rochelle.
35e édition du Festival de musique avec au programme hier notamment Angèle, la coqueluche du public français, M, Gaëtan Roussel, Bertrand Belin ou Radio Elvis, le chanteur de Radio Elvis, détendu et fier de l'être, Isabelle Pasquier.
Radio Elvis en grande forme pour l'ouverture de ses 35e Francofolies, face à la foule, face à l'océan, un rock du désenchantement servi par la voix de Pierre Guimard. Confidence avant le concert avec une recette pour ne pas laisser le stress gâcher le plaisir de la scène.
Des gens comme Brel ont fait beaucoup de mal à la chanson, à se créer un mythe eux-mêmes. Même si c'était vrai, le fait qu'ils vomissent avant chaque concert, que quand on n'a pas le trac avant de monter sur scène, c'est qu'on n'a pas de talent. Je trouve que ça fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, notamment à moi, parce que je culpabilisais de ne pas avoir le trac. Bon, je ne serai jamais Bachung, je ne serai jamais Jacques Brel, mais je serai moi-même et c'est ça qui sera ma force.
Et loin de l'univers fluo-ado d'Angèle, qui a électrisé les Franco, l'Europe plus sombre de l'écrivain crooner Bertrand Belin. Sur scène, Belin incarne totalement les personnages de ses textes, textes noirs, acides et minimalistes, des coups de poing, comme sa chanson sur les SDF sur le cul.
Il est question des gens qui sont sur le cul au sens propre du terme, c'est-à-dire par terre, le cul par terre, quoi. Moi, je le transforme comme une photographie de douaneau, c'est ça mon idéal, en fait. C'est un travail d'artiste, une chanson quand même, mais enfin, qui soit connectée au monde dans lequel elle est produite.
Il y avait un homme ce matin.
Au Franco de La Rochelle, Isabelle Pesquet, France Inter.
Sur le cul.
Voilà, aujourd'hui à l'affiche Christine and the Queens, The Blaze, Deacon Garnet, André Manoukian. Ce soir, émission spéciale sur Inter, le Mac de l'été à 18h et soirée concert animée par Didier Varro. À partir de 20h, il sera sans doute plus tendre avec nos anciens.
La Rochelle, comme si vous y étiez. C'était le journal de Sébastien Logénil.